Mais il a eu probablement cette tentation d'une prise de pouvoir et d'un coup d'État.
Emmanuel de Waresquiel.
Seulement, il est pris de surprise et de vitesse par la Chambre des députés, qui, sous l'action de Fouché, qui envoie Lafayette et quelques autres, va se décréter en permanence et va exiger son abdication. Ça se passe en 2 jours, hein. Fouché, là, certainement l'ancien ministre de la police de Napoléon, qui l'a été à nouveau sous les 100 jours, est certainement l'homme de la décision finale, l'homme qui quasiment tient la plume de la seconde abdication de Napoléon le 22 juin 1815.
Lafayette donne le coup de grâce à Lucien Bonaparte, venu défendre une dernière fois son frère devant les chambres.
Vous nous accusez de manquer à nos devoirs envers l'honneur et envers Napoléon. Avez-vous oublié ce que nous avons fait pour lui? Avez-vous oublié que nous l'avons suivi dans les sables d'Afrique, dans les déserts de Russie, et que les ossements de nos enfants, de nos frères, attestent partout de notre fidélité? Nous avons assez fait pour lui. Maintenant, notre devoir est de sauver la patrie.
Quand Napoléon revient à l'Élysée, je crois que tout le monde se rend compte qu'il ne faut pas trop le brusquer. Il a quand même été très choqué par Waterloo. Il est très fatigué.
Charles-Éloi Vial.
Il se liloque beaucoup. Il parle beaucoup de faire la guerre. En même temps, il se rend bien compte, quelque part, que ça ne peut pas marcher. Il est très déprimé. Donc, il est instable. Donc, il faut le ménager et il faut l'amener à abandonner le pouvoir le plus doucement possible pour ne pas le contrarier. Donc c'est pour ça que ça va prendre une journée. On se rend bien compte que dans son entourage, donc il y a quelques jusqu'au boutistes comme Carnot, quelques jeunes officiers qui veulent à tout prix se battre, ils sont assez peu nombreux. Les ministres vont très vite se rendre compte que ce n'est pas possible et le pousser à abdiquer pour ne pas subir l'humiliation d'une déchéance. Et il y a son entourage, donc il y a par exemple la reine Hortense, il y a Madame Mère, tous lui disent « Sire, il faut abdiquer. Il faut abdiquer le plus vite possible et ensuite il faut partir et ne plus jamais revenir, il faut fuir aux États-Unis. »
Là, il va petit à petit penser que son retrait est nécessaire, qu'il lui faut s'en aller, mais bon, voilà, s'en aller, mais encore faut-il savoir pour où, et il veut une sortie digne, hein. Je le répète, il est à la recherche d'une sortie de scène à la hauteur de son histoire.
Suis-je un misérable chef de parti pour allumer une guerre civile? Non, jamais. En Brumaire, nous avons pu tirer l'épée pour le bien de la France. Pour le bien de la France, nous devons aujourd'hui jeter cette épée loin de nous. Essayez de ramener les chambres. Je puis tout avec elles. Sans elles, je pourrais beaucoup pour mon intérêt, mais je ne pourrais pas sauver la patrie. Allez, je vous défends en sortant de haranguer ce peuple qui me demande les armes. Je tenterai tout pour la France. Je ne veux rien tenter pour moi.
Napoléon a compris qu'il ne sauverait pas son propre trône, mais il va essayer à nouveau de sauver celui de son fils, en essayant de démontrer à ses adversaires que Louis XVIII ayant échoué, sa légitimité n'existe plus. Et qu'en revanche, un empire, avec un Napoléon II, éventuellement une régence de Marie-Louise qui pourrait plaire à l'Autriche, et la solution institutionnelle. Mais il est trop tard. Personne ne veut en entendre parler. L'opposition libérale va tenter un dernier coup, on va dire, pour trouver une autre voie que l'Empire ou la branche aînée des Bourbons. Mais je ne crois pas que ces gens aient eu envie à aucun moment de proclamer la République. Ils cherchaient une solution monarchique. Donc on va tâter un petit peu du côté du duc d'Orléans, comme d'habitude. On va un petit peu penser à Napoléon II. Et puis finalement, tout le monde se rend compte que la seule solution qui soit immédiatement applicable, immédiatement pratique, et au fond qui arrange bien les alliés, parce qu'on leur trouve une solution pour prendre la succession de Napoléon, ce sera un retour de Louis XVIII.
On veut que j'abdique. A-t-on calculé les suites inévitables de cette abdication? C'est autour de moi, autour de mon nom, que se groupe l'armée. M'enlever à elle, c'est la dissoudre. Si j'abdique aujourd'hui, vous n'aurez plus d'armée dans 2 jours. Cette armée n'entend pas vos subtilités.
Si on m'avait renversé il y a 15 jours, c'eût été de courage. Mais je fais partie maintenant de ce que l'étranger attaque. Je fais donc partie de ce que la France doit défendre. En me livrant, elle se livre elle-même. Elle avoue sa faiblesse. Elle se reconnaît vaincue. Elle encourage l'audace du vainqueur. Ce n'est pas la liberté qui me dépose. C'est Waterloo. C'est la peur. Une peur dont vos ennemis profiteront.
Regnault, député et ministre d'État pendant les 100 jours, saura trouver les mots pour apaiser le bientôt ex-empereur de France.
Sire, ne cherchez pas, je vous en conjure, à lutter plus longtemps contre l'invincible force des choses. Le temps s'écoule, l'ennemi s'avance. Ne laissez point à la Chambre, à la nation, le moyen de vous accuser d'avoir empêché d'obtenir la paix. En 1814, vous vous êtes sacrifié au salut de tous. Renouvelez aujourd'hui ce grand... ce généreux sacrifice.
Napoléon va abdiquer le 22 juin au Palais de l'Élysée et son abdication prend la forme d'une proclamation au peuple français dans laquelle, contrairement à l'année précédente où il avait abdiqué sans condition, là il y met une condition, c'est que son fils lui succède. Donc c'est une sorte de respect de la succession impériale. L'idée derrière, le piège que ça cache, c'est que si son fils n'est pas proclamé empereur, son abdication n'est plus valide et donc il peut reprendre le pouvoir. Donc c'est un moyen potentiellement pour lui de se mettre quelques jours en retrait. Et au bout de quelques jours, s'il voit qu'on veut restaurer Louis XVIII ou proclamer la République ou proclamer le duc d'Orléans, si la tournure des événements ne lui convient pas, il peut revenir en disant « mon abdication n'est pas valable, je suis toujours l'empereur ». Donc il y a ce côté piège qui est extrêmement angoissant. Donc ça, Fouché et ses alliés dans les chambres vont tout faire pour faire oublier cette clause dans son abdication. Il y a aussi simplement du bon sens, c'est-à-dire que le petit Napoléon II, il est avec sa mère, il est à Vienne, la France est en guerre, la France est à la veille d'être envahie. On ne proclame pas chef de l'État un enfant qui est dans une capitale étrangère à des milliers de kilomètres de là, alors que le pays est soumis à des conditions dramatiques. C'est complètement irresponsable.
Français, en commençant la guerre pour soutenir l'indépendance nationale, je comptais sur la réunion de tous les efforts, de toutes les volontés et le concours de toutes les autorités nationales. J'étais fondé à espérer le succès et j'avais bravé toutes les déclarations des puissances contre moi. Les circonstances me paraissent changées. Je m'offre en sacrifice à la haine des ennemis de la France. Puissent-ils être sincères dans leurs déclarations et n'en avoir voulu réellement qu'à ma personne ? Unissez-vous pour le salut public et pour rester une nation indépendante.
L'abdication de Napoléon conduira finalement au retour de Louis XVIII et met fin à cette période incroyable qu'on a appelée les 100 jours.
Le 22 juin, Napoléon abdique et
Thierry Lenz.
Le nouveau gouvernement, alors qu'il n'est pas encore complètement le gouvernement provisoire, fait quand même bien comprendre qu'une fois qu'on aura abdiqué, le mieux sera de se retirer quelque part. Et c'est bien tout le problème de cette période, c'est-à-dire où aller, quoi. Alors Napoléon choisit d'abord d'aller se reposer un petit peu. Rappelons qu'il est épuisé par la campagne de Belgique. Il choisit d'aller se réfugier pour quelques jours à Malmaison. Malmaison qui est le château des jours heureux, qui est le château du consulat, celui où véritablement Napoléon a été le plus grand, c'est-à-dire... le moment où il a redressé, réformé la France. Et puis c'est aussi la maison de Joséphine. Et évidemment, c'est un moment où Napoléon va se tourner, alors provisoirement, sur cette période, avec les regrets, mais des regrets qui sont évidemment beaucoup trop tardifs. On sait qu'il est allé se recueillir dans la chambre où Joséphine était morte, qu'il a beaucoup parlé avec la reine Hortense, qu'en fait, il s'est un tout petit peu tourné vers le passé, jusqu'au moment où la réalité le rejoint et l'oblige à bouger.
Effectivement, même dans cette descente aux enfers, Napoléon reste un homme d'action. Il a peut-être perdu son trône, mais il veut encore croire à une belle sortie militaire.
Pendant que Napoléon est à Malmaison, il apprend un petit peu les mouvements de l'ennemi et puis il remarque que les Prussiens, les Anglais ne sont pas assez proches les uns des autres. Et donc, on va dire avec sa vista habituelle, il se dit « mais oui, mais c'est là qu'il faut taper ». Et les gouvernants ne l'ont pas vu. C'est-à-dire que lui, il est encore dans l'optique qu'on peut gagner la guerre, quoi. Donc il va proposer au gouvernement provisoire ses services pour commander l'armée. En disant bah, « écoutez, je commande l'armée, je gagne la guerre et je m'en vais après ».
Qu'on me fasse général, je commanderai l'armée. Partez pour Paris, une voiture vous attend. Expliquez au gouvernement provisoire que mon intention n'est pas de reprendre le pouvoir. Je veux battre l'ennemi, l'écraser, le forcer par la victoire à donner un cours favorable aux négociations. Ensuite, je partirai.
Napoléon n'est plus très en phase avec la réalité, il est un peu sous le choc. Sa proposition de reprendre du service comme simple général est très curieuse.
Charles-Éloi Vial.
C'est un peu dans la continuité de la tentative de proclamer son fils, c'est-à-dire de quand même garder un pied dans les enceintes du pouvoir. Mais on peut voir ça autrement. Je pense que Napoléon propose de reprendre du service comme simple général. C'est aussi une façon de se dédouaner vis-à-vis de la postérité, c'est-à-dire que il n'a aucune envie de le faire, il sait bien qu'on va le lui refuser, mais il va s'accrocher, il va insister pour que jusqu'au bout, on puisse dire qu'il aura tout fait pour sauver la France après l'avoir mis dans une situation catastrophique, qu'il aura vraiment fait tout ce qu'il pouvait comme souverain et aussi comme général. Donc si on lui refuse finalement, alors qu'il est persuadé qu'avec son génie militaire, il serait capable de battre les Prussiens et les Anglais à plate couture, ça reste à voir. Mais en gros, c'est la France qui a refusé d'être sauvée par Napoléon. Donc c'est à la France que revient ensuite la responsabilité des maux qui vont suivre à son abdication et à son départ en exil. Donc il y a aussi une façon de se dédouaner vis-à-vis de la postérité.
La réponse de Fouché est quasiment... D'abord, on ne lui répond pas officiellement, évidemment, mais la réponse de Fouché, c'est enfin, de quoi il se mêle, quoi, hein. C'est-à-dire, il n'a pas compris qu'on est en train d'essayer de négocier la moins mauvaise paix possible après cette aventure des 100 jours, et donc qu'il nous laisse tranquille.
Est-ce qu'il se moque de nous? Ne sait-on pas comment il tiendrait ses promesses si ses propositions étaient acceptées? Pourquoi vous êtes-vous chargé d'une pareille mission alors que vous deviez presser le départ de l'empereur?
Alors Fouché a pour interlocuteur de manière assez lointaine les souverains alliés qui sont entrés en France et qui sont à peu près au nord de l'Alsace à ce moment-là, à qui il va envoyer une députation. Il est en lien un peu plus régulier avec Wellington et avec Blücher. Il y a des émissaires qui font la navette entre leurs deux quartiers généraux qui s'avancent de plus en plus vers Paris et il y a des allers-retours quasiment quotidiens. Enfin, Fouché est en lien un tout petit peu avec Napoléon, qu'il fait surveiller, à qui il envoie quelques messages par truchement de certains émissaires. Et il est en contact, enfin Fouché, avec tout le reste de la France, puisqu'il faut faire en sorte que la France ne se soulève pas, ne sombre pas dans la guerre civile et que toute l'administration passe sous le contrôle du gouvernement provisoire. Donc Fouché a quand même là aussi beaucoup de fils à sa toile d'araignée. Il est en contact avec beaucoup de monde et le sommet de son habileté, ça sera dans les premiers jours de juillet, quand donc Paris sera encerclé par les Anglais et les Prussiens, et que là, Fouché va sortir pour aller négocier directement avec Wellington, donc négocier l'armistice, la reddition de Paris, l'entrée des alliés dans Paris, et in fine, ensuite, quand il ira, jurer fidélité à Louis XVIII en compagnie de Talleyrand.
Napoléon comprend cette fois définitivement que sa carrière politique et militaire est finie. Il va devoir quitter la France. Mais où aller? Et que faire?
La première idée de Napoléon, c'est d'aller en Amérique. On sait que ce qui va emmener ensuite à Sainte-Hélène, c'est tout ce qu'il a préparé pour partir en Amérique. Des outils d'observation, des livres de géométrie, de géographie, etc. En fait, c'est destiné à aller en Amérique. Et en fait, ça n'ira pas exactement vers l'ouest, mais plutôt vers le sud.
Est-ce qu'il se rêve en nouveau Washington? C'est pas impossible. Ça fait partie des rêves napoléoniens.
Emmanuel de Warrestiel.
Ce rêve de à la fois Cincinnatus et Washington, hein, une espèce de mélange. Regardez Bonaparte après les campagnes d'Italie, lorsqu'il rentre et qu'il est présenté au directoire en 1797, si mes souvenirs sont bons. Il est en civil. Il y a cette espèce de rêve d'un général politique, du général le plus politique de l'armée et du général aussi le plus civil de l'armée. Au fond, l'Empire n'a pas été un régime militaire. C'est pas l'armée qui a le dernier mot sous l'Empire, c'est Napoléon.
Il a soigneusement préparé son voyage en Amérique, comme toujours. Hein. Napoléon veut des cars, des plans, des livres, des armes. Donc lui, il est persuadé qu'il va... Alors quoi ? Il ne sait pas encore, mais il s'ouvre un nouveau champ des possibles.
Les États-Unis, pour Napoléon, représentent à la fois une terre neuve où il n'est pas très connu.
Thierry Lenz.
Il se leurre un petit peu sur sa propre image aux États-Unis parce que les relations entre la France napoléonienne et les États-Unis n'ont pas été mauvaises. Ça n'a pas été un allié, hein, les États-Unis, mais enfin, ça n'a pas été mauvais. Donc, il imagine que dans ce pays neuf, il pourra alors... dit-il, s'installer un peu bourgeoisement, écrire ses mémoires, observer les étoiles, que sais-je encore. Mais enfin, j'imagine que le gouvernement américain, voyant arriver Napoléon chez lui, n'aurait pas cru un mot de cette envie d'être un pionnier supplémentaire aux États-Unis. Napoléon a envahi l'univers hein, pendant son règne, c'est-à-dire que pendant une quinzaine d'années, rien n'a pu se faire, on va dire, dans le monde européen et globalement occidental, sans tenir compte de ce que pensait, de ce que voulait, de ce que faisait Napoléon. On ne peut pas se départir de cette empreinte de Napoléon tant qu'il est vivant. Très facilement. On se dit toujours, mais cet homme-là, dont tout le monde d'ailleurs à l'époque reconnaît l'activité, le génie, l'imagination, etc., personne ne peut croire que cet homme-là va se retirer tranquillement dans un cottage et attendre la mort.
Napoléon fait-il preuve de naïveté en pensant qu'il pourra couler des jours heureux en Amérique ? En tout cas, il y croit.
Et on lui a dit, oui, est-ce qu'il y aurait d'ailleurs deux frégates vous attendent dans le port de Rochefort, on va vous envoyer des laissez-passer, vous allez pouvoir partir, il n'y a aucun problème.
Pierre Branda.
Sauf que ça, c'est faux, en fait, Houché n'a absolument pas l'assurance qu'il puisse passer, c'est vrai qu'il lui met à disposition des frégates, lui, il aurait laissé partir, la preuve, hein, il laisse partir, mais ce qu'il ne peut absolument pas garantir, c'est qu'il passe la flotte anglaise, et en fait, il n'a aucune garantie, c'est même tout le contraire, des alliés qui ne sont pas du tout disposés à laisser partir Napoléon, donc en fait, ça, il ne le dit pas véritablement. Explicitement, il le laisse entendre, mais voilà. Lui aussi, il joue au chat et à la souris parce qu'il est un peu coincé entre le marteau des alliés et l'enclume Napoléon, en fait. Donc, Fouché joue un jeu très subtil, avance à pas feutrer, parce que voilà, si par malheur Napoléon revient dans le jeu, alors que finalement, lui, il a promis aux Bourbons, aux alliés, de débarrasser la France de Napoléon, en fait, lui est compromis. En fait, si Napoléon revient, Fouché tombe. N'a plus aucun rôle à jouer, donc il sera décrédibilisé. En somme, donc tout son rôle est de maintenir Napoléon dans un entre-deux pour qu'il arrive jusqu'à Rochefort et que de lui-même il constate, enfin Fouché ne sait pas quelle suite il peut bien lui arriver, mais enfin bon, plus il s'éloigne mieux c'est, hein. Fouché n'est pas le seul, hein. Il faut dire qu'aussi ceux qui étaient proches de Napoléon par exemple le ministre de la Marine de Cré ou Caulaincourt eux-mêmes, ne cessent de répéter qu'ils partent parce que en fait ils ne peuvent pas garantir la sécurité de sa personne et puis les choses se bousculent trop rapidement, il faut que voilà, la carte Napoléon sorte du jeu, ça. En quoi tout risque de mal se passer. Hein.
Bien. Alors, je n'ai plus qu'à partir. Donnez les ordres. Quand ils seront exécutés, venez me prévenir.
Alors, Fouché a pris la tête du gouvernement provisoire qui prend la suite de l'empereur. Donc, il y a un gouvernement provisoire avec 5 membres du gouvernement principal, dont Fouché qui est élu président. Fouché doit manœuvrer très finement parce que d'un côté, il faut tenir Napoléon suffisamment à l'écart pour ne pas le tenter de reprendre le pouvoir, pour ne pas que sa présence provoque de troubles dans Paris où il a encore beaucoup d'admirateurs et beaucoup de partisans. De l'autre côté, il n'a pas trop envie de laisser Napoléon trop s'éloigner de Paris parce qu'il peut servir éventuellement de monnaie d'échange face aux alliés. Donc il hésite un petit peu et finalement la solution pour laquelle il va opter, c'est de laisser Napoléon partir en sachant bien qu'il va quasiment à coup sûr ou se faire couler par la Royal Navy ou être capturé par les Anglais. Donc pour lui, c'est le laisser partir en sachant bien que de toute façon, sa tentative est vouée à l'échec.
Napoléon fait des adieux chargés d'émotions au petit château de Malmaison, symbole de sa gloire passée. Il prend la route de Rochefort avec sa suite.
Il est accompagné d'une suite encore d'une soixantaine de personnes. Il y a beaucoup d'officiers généraux, il y a bon, déjà le conseiller d'État Lascazes, et puis il y a toute une domesticité, hein, pratiquement 40 personnes. C'est la cour qui se déplace, hein, c'est un déplacement impérial, mais Napoléon y a tenu non pas par une sorte de vanité, mais tout simplement parce que son statut ne lui permettait pas de voyager autrement. Alors c'est un petit peu compliqué à comprendre pour nous aujourd'hui, mais c'était ça. C'est-à-dire, l'empereur ne pouvait pas prendre son cheval et puis aller à Rochefort, quoi. Il fallait qu'il y ait tout un appareil de cour autour de lui. Donc c'est assez grouillant, hein. Il faut ravitailler ces gens, il faut les loger. Ça n'est pas très très simple de recevoir l'empereur en voyage. Napoléon est parti, n'a pas voyagé léger, hein, partant de Malmaison. Hein. Il y a plusieurs voitures qui transportent ses effets. Il y a bien sûr ses effets personnels, mais il y a des livres, il a essayé d'en emporter beaucoup. Il y a des meubles qu'il va emporter. Il y a tout ce matériel d'observation, de travail scientifique. Et puis, il y a tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de sa maison, les lits de fer, les selles. Il y a des chevaux aussi. Donc non, on ne peut pas dire qu'il ait fait rapidement sa valise pour partir.
Napoléon a fait la demande très officiellement au gouvernement provisoire.
Charles-Éloi Vial.
Qui a effectivement envoyé un émissaire en catastrophe à Londres pour demander des laissez-passer pour que la Royal Navy laisse Napoléon franchir le blocus de la rade de Rochefort et traverser l'Atlantique pour aller tranquillement aux États-Unis. Donc il s'attend très sincèrement.